Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et maintenant, voici les vedettes de notre spectacle.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Nous vous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle interview à l'occasion de la sortie du Successeur ce mercredi 21 février. J'ai eu la chance de rencontrer son réalisateur Xavier Legrand et Marc-André Grondin, l'acteur principal du film. Xavier Legrand, vous le connaissez sûrement pour son premier long métrage à succès Jusqu'à la garde avec Léa Drucker et Denis Ménochet, qui avait reçu 4 Césars, dont meilleur film et meilleure actrice pour Léa Drucker. Pour le Successeur, il a fait appel à un acteur important du cinéma québécois, Marc-André Grondin, qui s'était fait remarquer dans la fresque familiale Crazy de Jean-Marc Vallée, avant de tourner en France dans Le premier jour du reste de ta vie de Rémi Besançon. Merci aux équipes de Haut et Court ainsi qu'aux attachés de presse du film. Nous avons hâte d'entendre vos retours sur le film et sur cette interview sur nos réseaux sociaux, sur les plateformes de streaming et les applications de podcast. Bonne écoute.
Elias Barnes, le nouveau prince de la mode.
Police est là. A été quelqu'un de marquant.
Bonjour Xavier Legrand, bonjour Marc-André Grondin. Nous sommes ici pour parler du Successeur, votre nouveau film qui sort le 21 février prochain. Première question, est-ce que vous pouvez nous résumer le film et je laisse à qui veut la parole pour commencer.
Je sais pas, est-ce que tu...
Mais non mais c'est à toi. Hein.
Ah tu crois, tu crois que c'est vraiment à moi? Résumer le film, eh bien, c'est l'histoire d'Elias Barnes, qui est un jeune homme québécois qui s'est établi en France, qui a quitté son pays d'origine, qui rien ne le destinait à devenir le directeur artistique d'une grande maison de couture française. Donc il est le successeur de la maison Orsino, parce que Yann Olivier Orsino vient de décéder, il le succède à ce poste. Et au même moment, là où le jour où il sort sa première collection, il apprend que son père, son vrai père biologique, vient de mourir et il doit retourner au Québec pour gérer la succession, mais il ne s'attendait pas du tout à cet héritage-là. Voilà.
Tintintin.
Tintintin.
Alors qu'il s'agisse du successeur ou de Jusqu'à la garde, on retrouve dans vos films des éléments qui proviennent du cinéma de genre, notamment dans la mise en scène. Donc je voulais connaître, pour vous deux, votre rapport au cinéma de genre, que ce soit donc en tant que réalisateur, en tant qu'acteur ou même en tant que spectateur.
Eh bien, moi, ça, en fait, ça reste un mystère, la définition du genre au cinéma. Et en même temps, c'est normal, on a besoin d'avoir des étiquettes pour pouvoir se repérer un peu dans le spatio-temporel des films. Mais je ne suis pas du tout féru de genre-genre, dans le sens les films d'horreur, ce n'est pas du tout mon truc. Mais c'est le suspense. Donc le suspense, on le retrouve dans plein de genres différents. Hitchcock, le suspense hitchcockien, bien évidemment, ça a été toute ma culture. J'ai découvert Hitchcock quand j'étais enfant. Et en même temps, il y a aussi des thrillers dans des faits de société, des sujets de société extrêmement ancrés dans la réalité. Et le genre dans le successeur, pareil, c'est un peu compliqué de le définir. Il est hybride, c'est sûr. Mais j'ai envie de dire que le genre, en fait, à la fois, bien évidemment, je m'en amuse. Il y a quand même dans la réalisation des plans qui font vraiment référence à certains films, même des plans qu'on a vus des millions de fois, parce que c'est familier chez le spectateur. Et en même temps, j'ai envie de dire, oui, on dit que c'est un thriller, on dit que c'est un film noir. Or, un thriller et un film noir, c'est pas pareil. Mm-hmm. Un thriller, on est du point de vue d'une victime, un film noir, on est du point de vue du criminel. Ben, tout dépend comment on a envie de voir ce personnage aussi. Mm-hmm. Donc c'est ça qui va définir le genre. J'en suis sûr, en tout cas, c'est que c'est une tragédie. La tragédie est un genre quand même qui est sous-exploité au cinéma. On n'en voit pas beaucoup des vraies tragédies, dans le sens où c'est la chute d'un homme et on sait de toute façon qu'il ne va pas s'en sortir. Le genre, pour moi, c'est pas une seule définition.
Mm-hmm. Et vous, Marc-André?
Si je me fie à ce que tu sous-entendais par film de genre, j'ai eu la chance d'en faire plusieurs quand même. Mm-hmm. Même fait un film avec des zombies.
Les Affamés de Robin Aubert.
Ouais. En fait, c'est toujours super agréable parce que... Au-delà du rapport que tu peux avoir sur le tournage puis l'expérience de tournage, c'est le rapport au public. Parce que le public vit des émotions physiques quand il voit un film de genre. ils sursautent, ils sont anxieux, ils se rongent les ongles. Il y a comme vraiment une réaction physique. Ils sont pas là comme je peux l'être, lobotomisé, regarder la télé, genre.
Ils sont engagés.
Ouais,
ils sont engagés,
ouais, exactement. Puis je crois que malgré le fait que j'ai fait plusieurs films de genre, j'ai fait aucun film. Mais je pense qu'il y a très peu de films qui ressemblent au successeur. Mais j'ai jamais fait un film qui a malmené autant le public, mm-hmm. et déstabilisé autant les gens. Et les gens aiment ça. Parce que je m'attendais beaucoup à ce que les gens soient choqués d'être déstabilisés comme ça. Puis je me rends compte que non, les gens ont envie de vivre des émotions au cinéma. Ils ont envie d'être déroutés, de sursauter, de se poser des questions, de débattre après la projection. Puis ça arrive pas souvent en tant que spectateur quand tu vois un film. Puis tu peux t'obstiner avec quelqu'un sur la fin ou sur le pourquoi de telle chose. Donc je pense que c'est ça qui est le plus trippant dans le film de genre.
Le personnage d'Elias est un personnage ambigu qui s'est amputé de ses origines jusqu'à son accent pour renaître dans le milieu de la mode. Est-ce que pour vous, enfin en tout cas, est-ce que vous avez choisi ce milieu parce que d'une certaine manière, il est que superficiellement déconstruit dans le sens où il a encore une manière d'imposer des injonctions aux femmes, des dictats de l'apparence, etc. Est-ce que pour vous, il y a un lien, une jumélité entre ce personnage et ce choix ?
Oui, c'est-à-dire que le fait d'avoir choisi le milieu de la mode est là pour plusieurs raisons. Il y a d'abord, si on reprend l'aspect tragique de la trajectoire du film, qui est une référence très directe et indirecte, mais en tout cas une grande inspiration des tragédies comme celle d'Édipe ou Hamlet. Édipe est roi, Hamlet est un prince, donc il y a quelque chose de statue. Yann Olivier est mort, c'est Elias, donc le roi est mort, vive le roi. Donc il y a déjà l'histoire d'un héritage de quelque chose. Donc je voulais traduire ça. Et il fallait aussi qu'il ait un statut qui ne mérite aucune éclaboussure. Du coup, sa chute en sera d'autant plus vertigineuse, vu qu'il tombe du 20e étage et pas du 2e, quoi. Et effectivement, il y a cette... alors que Elias est un homme qui respecte les femmes, qui travaille avec elles, qui connaît leur corps et qui ne veulent pas les hypersexualiser, on le voit dans la qualité de sa collection, en même temps, indirectement et sans doute inconsciemment, il est contraint de les objectiver. Ce sont des corps qui vont porter ses vêtements. Et elles n'ont pas de prénom, ou alors si elles ont un prénom, mais c'est quand on va choisir laquelle va poser avec lui. Donc oui, c'était intéressant de voir que même quelqu'un qui respecte les femmes et n'est pas du tout un prédateur ou un masculiniste, un dominateur, bah malgré tout a intégré cette culture que les femmes n'avaient pas le même statut que les hommes. Ouais.
Elles n'ont même pas de nom de famille.
Elles n'ont pas de nom de famille, elles ont des prénoms aussi, c'est pas même des pseudos.
Marc-André, l'un des rôles qui vous a révélé au grand public, c'était dans Crazy de Jean-Marc Vallée, qui était déjà le parcours d'un personnage qui questionnait la masculinité familiale. Est-ce que vous êtes allé quand même puiser dans cette expérience cinématographique pour construire le personnage d'Elias ou est-ce que vous êtes parti d'une page blanche ?
Écoute, ton analyse est meilleure que la mienne. Très bon point. Non, je ne suis pas allé puiser là-dedans du tout. Mais moi, j'ai été très surpris par la densité, la profondeur qu'a pris le film durant le tournage. J'ai lu le scénario, j'ai discuté avec Xavier. J'avais ma vision un peu du récit. J'avais ma vision de où j'allais probablement aller. Je suis assez instinctif, donc tant aussi longtemps que je ne suis pas dans le décor... avec les costumes, la mise en place. Je ne sais pas à 100% ce que je vais faire. Mais bon, j'avais une idée, mais j'ai été très déstabilisé pendant tout le tournage. À chaque fois que j'avais l'impression... Un peu comme le public, à chaque fois que j'avais l'impression qu'on se dirigeait à gauche, mais Xavier faisait « on s'en va à droite ». Et quand je pensais que c'était le fond, il me disait « non, le fond est 12 étages plus bas encore ». Disons que je croyais connaître les ténèbres avant de rencontrer Xavier Legrand, mais il m'a fait découvrir les vraies ténèbres. Mais non, c'est ça, non, mais en même temps, je crois que c'est des thèmes qui sont d'actualité et qui resteront d'actualité. Je veux pas être défaitiste, mais tu sais, je sais pas à quel point les choses vont se régler d'une certaine façon. C'est tellement ancré depuis des milliers d'années dans l'homme, cette violence, cette domination, même dans Barbie. J'ai vu Barbie il y a quelques jours, puis à la fin, je me disais, oui, c'est bien beau, c'est plein de bonne volonté, mais est-ce qu'on est capable d'avoir Barbie Land où tout le monde est égaux? Je ne sais pas. Donc, peut-être que Barbie puis le successeur pourraient réussir à
faire un beau mariage.
Ouais, ouais, c'est ça, à régler les problèmes du patriarcat.
J'ai envie de dire partout. Le film parle beaucoup du non-dit, du caché, de la fuite, des éléments qui ne sont pas évidents ni à jouer ni à mettre en scène parce que souvent intimes, donc invisibles. Est-ce que vous avez tous les deux construit et imaginé ensemble la relation précise que Elias a eue avec son père ou est-ce qu'au contraire c'était un tabou?
Il y avait dans une première version de scénario quelques mentions quand même dans la première partie du film entre Elias et son assistante. Il y avait quelques mentions de pourquoi il ne parlait plus vraiment à son père, mm-hmm. mais ça n'a jamais été approfondi.
Non, on les a même évacués. On les a évacués parce qu'on s'est dit que de toute façon, ça n'allait apporter aucune circonstance atténuante ou pas. Ça n'allait rien expliquer à la situation dans laquelle il se trouve. Mm-hmm. La rupture avec le père n'a pas de lien direct avec ce qu'il découvre. Et je voulais vraiment déconnecter ça parce que ce qui est intéressant, c'est la situation de cet héritage. Mm-hmm. Quel que fut le passé.
Vous ne l'avez même pas imaginé, cette relation passée?
Si, je l'ai un peu imaginée puisque je l'ai écrite. Mm-hmm. Elle est beaucoup moins spectaculaire que ce qu'on pourrait imaginer. C'est vraiment une sorte de relation cancéreuse qui augmente, la tumeur augmente et en fait, il y a la rupture au bout d'un moment. Donc, c'est plutôt une famille défaillante, on peut le percevoir. La mère a abandonné le fils au père et est partie avec le frère du père. Mmh. Waouh, c'est une référence directe à Hamlet, hein, d'ailleurs. Mmh. Gertrude part avec... Claudius, c'est pour ça qu'il s'appelle Claude, d'ailleurs. Claude. Eh oui, mais oui, c'est quelque chose qui m'a semblé pas du tout essentiel à exprimer dans le film, en tout cas.
Dans Le Successeur, il y a une très longue séquence d'enterrement. Et pendant cette scène, Marc-André, vous pleurez pendant, ça a été chronométré, 7 minutes de temps d'écran, même s'il y a des chants contre chants avec Yves-Jacques. Mais c'est quand même une très grosse performance lacrymale, j'ai envie de dire. Je voulais savoir comment on écrit et comment on joue une scène comme celle-là, surtout qu'il y a une forme de progression dans les larmes, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, on a l'impression d'entendre les pensées qui vont créer différents types de larmes. Pareil, est-ce que vous l'avez, comment vous l'avez construit cette scène ?
Bah, techniquement, parce qu'après, aucun moment on est allé chercher des trucs psychologiques. Hein. Il a fallu dire, madame, là, il va falloir morver, quoi. En gros. Mais en tout cas, pour que ce soit possible, parce qu'en fait, pleurer, ça dépend, on est tous inégaux, mais pleurer pour un acteur n'est pas si compliqué. On a des aides, même voilà, lacrymales pour nous aider. Ce qui est compliqué, c'est de conserver l'émotion toute la journée de tournage. Certes, 7 minutes à l'écran, mais c'est quand même 12 heures de tournage pour Marc-André. Hein. Il a fait ça pratiquement pendant 12 heures.
Waouh.
Donc, il a fallu que, comme c'est une longue séquence, je l'ai comme une pièce de théâtre presque, divisée en 5 actes. Et on faisait acte par acte. Pour qu'on puisse progresser dans la journée et pour se plonger dedans, parce que ce n'est que la durée qui peut nous faire advenir à l'émotion. Je repartais de la moitié de l'acte précédent pour qu'il puisse rentrer dedans, pour pouvoir se rattraper à chaque fois où on s'est arrêté l'acte précédent. Donc voilà, c'était une sorte, ça c'est technique, c'est pour un confort, pour favoriser la constance de l'émotion qu'il pouvait avoir. Maintenant, comment il a fait vraiment lui, c'est à lui de répondre.
Donc 12 heures de pleurs.
Non, mais pas 12 heures. C'est
non, j'exagère, mais bon.
C'est comme une demi-journée pour cette séquence-là, pas mal.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare. A leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ben écoutez, je sais pas vraiment. Il y a, comme je disais, je suis assez instinctif, donc sur papier, c'est écrit. Il pleure.
Il y a des hockey même. Ouais.
Je me souviens, on l'a tourné en ordre chronologique, donc on a tourné cette séquence-là dans les derniers jours de tournage. J'avais tourné tout ce qui a été tourné dans le film avant, donc il y a la fatigue, il y a plein de couches. Disons que j'avais plus de couches de protection rendues là. Puis je me souviens juste qu'avant la séquence, j'étais assis sur le siège, parce qu'il y a l'arrivée et tout ça. Bon. Mais pour le deuxième et troisième acte, là, quand il se met à pleurer et tout, j'ai demandé à Xavier, mais là, tu veux que je pleure, mais comment? J'étais comme, vas-y, commande. Puis il m'a dit, je veux que tu aies aucun contrôle. Je veux pas que tu essuies tes larmes. Je veux que tu aies aucunement conscient de ton image. T'es pas. T'as un lâcher prise, tu sais. Puis je sais pas, c'est arrivé, puis après, on se demande toujours si ça va durer, justement, si ça va pas se terminer à un moment, puis tu réussisses plus à aller chercher l'émotion. Puis, comme vous avez dit, on repartait toujours le plan d'après, ou peu importe, ou le plus tôt, donc on refaisait une bonne partie de la scène. C'est pour ça que c'était long aussi, le tourner. Mais... Et moi, je repartais, je refaisais monter l'émotion. Et il est arrivé un moment où l'émotion était toujours là. Moi, je suis vraiment du genre à... Je peux faire une scène où je pleure, puis à couper, je fais des blagues, puis je ramène jamais cette émotion-là à l'extérieur de la prise. Mais après avoir tourné tous les plans de cette séquence-là, je l'ai dit à Xavier après, j'aurais pu aller dans ma loge puis pleurer pendant une demi-heure encore. Il y avait quelque chose où j'avais ouvert une valve. Puis c'est vraiment pas moi. J'ai jamais vécu ça avant. Disons que là, j'étais au bout du rouleau.
Cette chose un peu particulière dans la scène, c'est qu'on a l'impression, ouais, de lire vos pensées et qu'elles sont hyper contradictoires. On va passer par de la haine, de la tristesse enfantine, du dégoût, de la peur. Est-ce que genre, chaque type de larme est associé à une émotion? Je sais que ça peut paraître bizarre, mais je trouve que c'est une des scènes absolument fascinantes de l'année.
Je suis tellement mauvais pour expliquer ce que je fais parce que c'est trop instinctif souvent. Parce que
je suis désolé.
Non, c'est moi qui est désolé, mais mais évidemment, c'est parce que c'est difficile aussi d'en parler sans révéler quoi que ce soit. Mais
ouais,
ce qu'on voit, dans ce que le personnage apprend, j'étais pas seul, sans musique, sans rien. J'étais assis dans la salle. Ce que vous voyez, c'était ce que j'ai vécu comme acteur aussi. J'étais assis dans la chaise, je voyais ce que le public voit. Et la chanson jouait aussi. Tout était là. Et oui, il y a toutes ces émotions-là parce que le personnage voit, découvre, comprend. Mais il y a cet enchaînement-là qui est beaucoup plus simple à jouer quand tu as vécu tout le tournage avant.
Ouais.
On aurait tourné cette séquence-là un mois avant, ça n'aurait pas été du tout comme ça.
C'est assez rare les films qui se tournent en ordre chronologique. Ouais. C'est un choix aussi bien pour justement la pression mise à l'acteur pour qu'il y ait vraiment une espèce de climax d'émotion, ou est-ce que c'est d'un point de vue purement pratique?
Non, c'est avant tout pour privilégier le jeu. C'est vrai que c'est mon deuxième film, c'est le deuxième film que je fais dans l'ordre chronologique. Jusqu'à La Gare, je l'avais aussi fait dans l'ordre chronologique, mais c'était pour Thomas. C'était la première fois qu'il tournait, c'était extrêmement intense ce qu'il avait à faire. J'aurais pas pu faire la dernière scène de Jusqu'à la gare, de la première semaine de tournage avec ce petit bonhomme qui découvrait. D'ailleurs, le premier jour de tournage, il avait peur du Perchman. Avec le micro, il dit « qu'est-ce que c'est que ça ?» Je lui ai expliqué que c'est pour prendre le son. Donc, voyez. Et c'est aussi peut-être parce que je viens du théâtre. On déroule, on fait des filages, on joue d'une traite. Et j'aime bien ça. Je trouve que ça participe effectivement à comprendre, à être cohérent dans l'émotion. Même si ça m'est arrivé de tourner dans le désordre et que c'est complètement possible. Mais c'est entre la partition que Léa, Denis et Thomas devaient jouer dans Jusqu'à la gare et celle de Marc-André sont des partitions tellement fortes et tellement extrêmes que moi, je suis un petit peu, c'est ma responsabilité de les mettre dans ce confort-là au moins. C'est-à-dire de ne pas aller tout de suite, surtout avec une équipe qu'on connaît à peine au début de la première semaine, de livrer autant de choses tellement intimes et tellement, où on doit, comme tu dis, t'abandonner et de ne même plus te sentir regardé et de plus contrôler ça. Donc c'est, oui.
La première journée de tournage, c'était le défilé. Puis la dernière journée de tournage à Paris, c'était Charles de Gaulle. Ouais. Puis on a vraiment tourné en ordre chronologique. Puis même à l'image du personnage, quand j'ai été parachuté dans ce tournage-là, entouré de mannequins qui se connaissaient tous et toutes, et moi j'étais là, puis je vivais cette remise en question, cette anxiété-là, un peu comme le personnage. J'étais...
Le premier plan, quand même, c'est intéressant. Le premier plan qu'il a tourné, c'est qu'il court dans cette spirale, il est applaudi par 300 personnes.
Ouais.
C'est quand même... Ouais, c'est... Ça le met sur le... Voilà.
Ah, oui. C'est rigolo parce que vous avez, au final, un peu interverti. Vous tourniez... Enfin, Marc-André, vous tourniez au Québec, là où vous vivez, j'imagine.
Ouais.
Et vous êtes censé jouer quelqu'un qui n'est pas habitué à revenir dans cet endroit-là, avec ces codes-là, avec cette langue-là. Et vous, Xavier, au contraire, vous avez dû créer votre univers dans un monde, au final, que vous ne connaissiez pas, avec des codes, j'imagine, que vous ne connaissiez pas. Est-ce qu'il n'y a pas eu un rapport un peu étrange dans tout ça ? Est-ce que ça vous a fait bizarre de tourner au Québec ? Et vous, est-ce que ça vous a fait bizarre ? Non,
c'était... Ah non, pas du tout. Non. Après, bien sûr qu'il y a des façons de faire là-bas qui ne sont pas comme ici, en France. Ils ont des journées de tournage plus longues. Ils ont... Les mêmes postes ne s'occupent pas des mêmes choses, donc c'est plus une question d'adaptation.
C'est anecdotique.
Mais c'est anecdotique, oui. Je veux dire, les acteurs français, les acteurs québécois, le jeu, ça passe par les mêmes choses. Mmh. En plus, on partage la même langue, donc on se comprenait totalement. Non, vraiment pas. Puis moi, Montréal, j'ai vraiment l'impression d'être un peu chez moi. C'est francophone, enfin, c'est des cousins. Hein, non, mais c'est vrai. Il n'y a pas eu du tout le côté dépaysement.
C'était plus difficile pour moi une fois arrivé au Québec parce que sur le plateau de tournage, l'équipe était belge, française et québécoise. Et la majorité de l'équipe québécoise, c'est des gens que je connais très, très bien, avec qui j'ai travaillé souvent. Donc, je parlais avec mon accent québécois à un, je me retournais, je parlais avec l'accent français à Xavier, puis là, je parlais au belge, puis je prenais l'accent belge. Donc, j'étais un peu perdu dans la francophonie pendant le tournage. Mais ça a été une belle rencontre d'avoir ces trois façons de faire différentes, mais pareilles. Et tout le monde était curieux, un peu de tout le monde, puis... Il y avait une belle camaraderie. Puis on était tous pris dans cette maison-là pendant trois semaines de nuit, à étouffer, à être pris dans le décor qui est petit, avec le dolly, l'équipe. Les gens, ils peuvent peut-être s'imaginer que c'était en studio où on avait nos loges à l'extérieur. Mais non, on était là. Puis entre les prises, on s'assoyait par terre comme le personnage. On était vraiment pris dans cette maison-là. On a rarement été aussi heureux de se retrouver dans un salon funéraire par la suite. Parce qu'on est passé de la maison au salon funéraire. Donc.
Xavier, vous aviez dit en interview que vous aviez pensé « Avant que de tout perdre » comme le point de départ d'une trilogie sur la violence familiale. Est-ce que le successeur fait partie de ce pan, de ce volet sur la violence familiale ? Et du coup, est-ce que la suite sera encore sur ça pour créer une trilogie avec Jusqu'à la garde, ou est-ce que votre court-métrage est le premier, puis Jusqu'à la garde le 2, puis le successeur le 3? Bref, vous avez compris la question, même si c'est confus.
Et pareil, je viens du théâtre, la trilogie, les trois actes sont là depuis le début, je crois que voilà. Par contre, cette trilogie a changé de visage. Effectivement, je voulais faire une trilogie sur notamment les violences intrafamiliales, en faisant trois courts-métrages. Puis en fait, j'ai juste fait « Avant de tout perdre ». Et puis finalement, les deux autres sont devenus « Jusqu'à la garde ». C'est devenu un long. Mais du coup, pour moi, je mets « Avant de tout perdre » comme une sorte d'ouverture, d'opéra. L'acte 1 est « Jusqu'à la garde », l'acte 2, le successeur. Et effectivement, je suis en train du coup de faire un acte 3 sur le patriarcat. Hein. C'est surtout ça le fil rouge. Dans un autre genre, dans d'autres circonstances, à un autre moment de notre société. Mais oui, je vais clôturer ma trilogie.
Incroyable. Et vous, du coup, Marc-André, c'est quoi vos projets pour la suite ?
Moi, j'ai pas de trilogie en vue. Je sais pas la suite. Ben moi, je continue de travailler au Québec beaucoup. Je produis aussi pour la télé. Donc, j'ai la chance d'être derrière la caméra. J'adore ça. Puis non, j'ai un emploi du temps très chargé, trois enfants, plein de boulot, donc tout va bien.
Du coup, merci du temps à accorder pour cette interview. Mais avant qu'on se quitte, vous inquiétez pas, je les ai briefés. Nous allons faire notre petit jeu de la honte et demander à chacun le classique de cinéma qu'il n'a pas vu et de dire qu'en effet, c'est pas grave de pas avoir tout vu encore. Qui commence ? Je vous vois tous les deux inquiets.
J'avoue, mais sans honte, parce que ne pas voir tous les films n'est pas ne pas aimer le cinéma. Je pense qu'un film, c'est un rendez-vous. Et qu'on doit voir un film au bon moment, au bon endroit. Je n'ai jamais vu Mort à Venise, et ce n'est pas grave.
Mais moi, je n'ai jamais vu Casablanca. Et ah, j'ai
ça,
pas honte.
Si, ça craint quand même. Non.
Oh, mais c'est chiant. Oh. Eh oui.
Pas de jugement. Okay.
Eh non, attends, ah, non. J'ai pire. Ah. J'ai pas vu Casablanca, et je l'ai eu en DVD pendant 15 ans chez moi.
Et tu l'as jamais regardé non plus?
Non.
Ouais, t'en as dit un petit peu trop. Parce que là, c'est vraiment la honte.
Ah bah, du coup, merci Xavier Legrand, merci Marc-André Grondin.
Merci
et puis je vous rappelle que Le Successeur sort le 21 février prochain en salle.
Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.